Thank you. maintenant, je veux que tu dises, Seigneur, c'est pour toi que je suis ici. C'est pour toi que je suis ici, Seigneur. Parce que je veux que tu me parles. J'ai besoin d'être nourri par toi. Mon cœur a soif de toi. Et je veux te contempler. Seigneur, je suis asséché. Ravitaille-moi, Seigneur. Et que ta gloire descende. Et que ta miséricorde se déploie sur nous. Et que ta grâce, Seigneur, soit le partage de nous tous ce soir. Merci, Seigneur, merci. Merci, notre Dieu. Parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous rassemble ici. Et c'est toi que nous attendons. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous voici, Seigneur. Vide-nous de nous-mêmes. Et remplis-nous de toi, car nous sommes tes enfants. Béni sois-tu, notre Dieu, parce que tu agis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais nous rappeler que le thème de ce soir, c'est « Il n'est pas bon que tu sois seul ». Il n'est pas bon que tu sois seul. Voilà le thème. Je veux que nous partions ensemble et que chacun se dise, il n'est pas bon que je sois seul. Allons-y. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de voir pourquoi il n'est pas bon que je sois seul, que tu sois seul. Nous allons prendre deux scénarios. Prenons un scénario d'un monde où tu es vraiment seul. Tu marches seul. Tu vis seul. Tu manges seul. Tu bois seul. Tu travailles seul. Tu récoltes seul le fruit de toi. Comment serait ce monde-là? Tu dors seul. Tu te réveilles seul. Tu pars au travail seul, tu t'apprécies seul, tu te notes seul, tu te juges seul. Comment serait ce monde? Hein? Ennuyeux. Hein? Sans vie. Ce serait sans vie. Tu es seul, ça veut dire que tu ne pourras même pas accoucher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons donc un monde où je suis seul, je fais tout seul, je reçois tout seul, je donne tout seul à moi, et un monde sans vie. Maintenant, imaginons l'autre monde où nous vivons dans l'harmonie, dans l'entraide, dans la solidarité, dans le partage, dans la communion fraternelle. Comment serait ce monde? Hein? Merveilleux. Quoi? Je ne vous suis pas. Ce serait un monde agréable, merveilleux. Ce serait un peu comme le paradis, quoi. Comme nous imaginons le paradis. Bien-aimé, je crois qu'à décrire ces deux mondes, nous comprenons qu'il n'est pas que tu sois seul. Je veux maintenant que tu dises à ton voisin, il n'est pas que tu sois seul. Bien. Dès la création, est-ce que vous pouvez me dire qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Dieu. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu lui-même, le Créateur, après avoir tout apprécié, parce que depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, lorsqu'il crée, il regarde, il évalue et il dit que cela est très. Et à la fin, quand il veut créer la femme, à partir de l'homme, il dit, il n'est pas. Bien-aimé, la chose la plus horrible qui soit. Et Dieu l'a dit, c'est d'être seul. la chose la plus horrible, c'est d'être seul. D'ailleurs, voyons, dès la création de l'homme, quand, si vous regardez la création, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, et la chose est. N'est-ce pas? Chaque fois qu'il dit, la chose est, et il apprécie. Et il voit que c'est très bon. Mais alors, si nous voyons dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, à ce moment-là, créons l'homme. Ils étaient combien? Trois. Il dit maintenant là, comme il s'agit de l'homme, associons-nous, tenons un conseil de création, entendons-nous pour créer l'homme. Et qu'il soit comment? À notre image et selon notre respect. Créons l'homme comme nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour créer l'homme, Dieu s'est associé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour concevoir et mettre sur pied l'homme semblable à lui-même Dieu. Donc, nous voyons donc, et comme l'homme devait être créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, Dieu, qui n'est pas solidaire, a créé l'homme qui ne devait pas être solidaire. Il n'est pas bon que tu sois seul. Et l'homme a chuté. Lorsque l'homme a chuté, Dieu a envoyé son Fils unique. Le Fils unique est arrivé ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a travaillé seul? Il a dit, il n'est pas bon que je travaille. Je me ferai des disciples. Je vais m'associer à mes frères. Encore là, Jésus, Fils de Dieu, revêtu de pouvoir divin, n'a pas voulu travailler seul. Et au départ de Jésus vers son Père, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bon que je vous laisse, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient et dit, il n'est pas bon que je travaille seul, je vais travailler avec l'Église. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est le directeur de l'Église. Bien-aimés, nous devons reconnaître une chose, on ne peut pas être seul. On ne peut pas travailler seul. On ne peut pas vivre seul. Et lorsque le Saint-Esprit partage les dons spirituels, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, je cite, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu ne t'a rien donné pour toi seul. Jamais. Ceci veut dire que rien ne t'appartient. Ce qui est à toi, c'est pour l'autre. Et ça me donne de comprendre. Vous savez, la plupart du temps, les chrétiens se plaignent qu'ils n'ont rien reçu. Ils ne savent même pas quel est leur don. Parfois, Dieu se rend compte que si tu accordes des dons spirituels, tu vas confisquer. Tu vas confisquer, alors il ne te donne pas. La preuve est que la plupart des gens qui ont par exemple le don de guérison n'ont jamais pu se rendre à un hôpital pour prier pour un qui l'a. Bien-aimé, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu partages avec les autres. Ce que Dieu te donne n'est pas à toi, parce que tu ne seras pas seul. Et ce qui est à toi sera pour vous tous. Il n'est pas bon que tu sois seul. Et si nous regardons la déclaration de Dieu selon laquelle il n'était pas bon que Adam soit seul, nous allons nous rendre compte que Dieu avait tout créé et il avait tout donné à qui? À l'homme. Et à ce moment-là, dans Genèse 2, versets 18 à 23, que nous n'allons pas lire, nous connaissons, quand Dieu déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il avait donné, apporté tous les animaux, tout ce qui avait été créé à l'homme, pour que l'homme les nomme, leur donne le nom. Parce que c'est l'homme qui devait gérer tout ça. Et tout était en mâle et femelle, sauf l'homme. Imaginez quelle était la situation de l'homme. Quand il s'est trouvé seul, il était comment? Hein? Malheureux. Pourtant, tous les animaux lui appartenaient. Des cieux, de la terre, de la mer, tout cela lui appartenait. Mais il n'avait pas un partenaire. Il était malheureux. La preuve, c'est que quand il se réveille de son sommeil et constate que Ève était devant lui, qu'est-ce qu'il dit? Oh, voici celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. Et c'est à ce moment-là qu'on appelle Adam homme. Bien-aimé, je vais te faire comprendre que tu n'es quelqu'un que par rapport à tes relations. Lorsque la fille, on l'appelle fille. Lorsque le garçon naît, on l'appelle garçon. On peut l'appeler Pierre ou Jacques ou Jeanne. Mais le jour où il ou elle s'associe, on dit comment elle s'appelle? On dit Jeanne. On dit Jeanne qui? On dit la femme de. Quand le garçon se marie, on l'appelle l'homme de. Quand il y a le pasteur Wété ici, il s'appelle Wété. Mais quand on dit, il est qui? On dit, il est le pasteur. Voilà son vrai. Voilà sa vraie identité. Il est le pasteur parce que il ne s'identifie ou alors on ne l'identifie que par rapport à ses relations avec les autres. Quand il est enseignant, il est avocat, on ne l'identifie que par rapport à ce qu'il fait aux autres. Et si nous arrivons maintenant même au fruit du Saint-Esprit, l'amour, non, commençons par le commandement le plus important. Ou alors le sommaire des commandements. Seigneur, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui lui a été dit? Est-ce qu'on a dit tu t'aimeras? Tu aimeras et tu aimeras. Tu aimeras et tu aimeras. Bien-aimé, il n'est pas bon que tu sois seul. Tout ce que tu as, c'est pour l'autre. Ce n'est pas pour toi. Tout ce que l'autre a aussi, c'est pour toi. On n'a pas dit tu mangeras bien, tu te porteras bien, je te donnerai la santé. On a dit tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Enfin, comme toi, tu viens même en troisième position. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas fait. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Pas du tout. Voilà pourquoi toute la loi et les prophètes se résument seulement aime Dieu, aime le prochain. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être seul? quelles sont les relations, quels sont les avantages des bonnes relations avec autrui. Je veux nous inviter à lire un passage. C'est Ecclésiaste 4, versets 8 à 12. Quelqu'un va se lever et lire du début à la fin. Pour que nous comprenions pourquoi, quel avantage nous tirons à être ensemble, à tisser des bonnes relations. Est-ce que quelqu'un a vu Ecclésiaste 4, versets 8 à 12, à haute voix? Il y a le micro? Micro, s'il vous plaît.
Ecclésiaste 4, versets 8 à 12. Là, il est écrit: tel homme est seul et sans personne qui lui tient de près. Il n'y a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen.
Amen. Bien-aimés, nous comprenons à travers ce passage que nous n'allons pas beaucoup commenter. Nous allons seulement résumer en disant que être seul, on décrit dans ce passage-là que c'est une fumée sous le soleil. On dit qu'être seul, c'est priver son âme de la jouissance. C'est se dépenser inutilement, malgré le travail, malgré la richesse, malgré les accumulations que tu peux avoir. C'est priver ton âme de la jouissance. C'est dépenser inutilement. C'est une vanité. C'est une chose mauvaise. C'est un malheur et un danger. Voilà ce que représente être seul dans ce passage. Et mais être ensemble donne un grand rendement. Et c'est ce qu'on appelle la loi de la synergie. La loi de la synergie veut que le travail commun de deux personnes dépasse le travail de deux personnes qui travaille individuellement. Permettez-moi la tautologie. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble à travailler, votre travail est supérieur à l'addition du travail de vous deux qui travaillez individuellement. Ça se comprend? Et dans ce cas, quand on dit 1 plus 1, on dit que c'est égal à... La loi de la synergie veut que 1 plus 1 soit supérieur à 2. Parce que le travail commun dépasse toujours l'addition des travaux individuels. Donc ça donne un bon rendement. L'un est un soutien pour l'autre, une sécurité, une force, une aide, une protection. Et ensemble, on résiste mieux à l'adversité. Ensemble, on est vainqueur. Ensemble, on est fort. Et maintenant, ensemble, si l'homme et la femme, mariés, s'entend, se couchent, il se dégage de la chaleur. Il y a la chaleur psychologique qui veut que se coucher ensemble nous rapproche et nous permet de nous entendre sur nos différends. Il y a la chaleur corporelle qui veut que lorsque nous nous couchons ensemble, le froid s'élimine. Nous avons chaud. Il y a
C'est la chaleur vitale qui veut que lorsque nous nous couchons ensemble dans l'intimité, l'ensemble produit la procréation et un être humain naît. Voilà pourquoi on doit être ensemble. Donc, sans une vie d'ensemble, il n'y aurait même pas de vie. Nous sommes d'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer en nous révélant que dans Matthieu 18, verset 19 à 20, il est dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ceci nous donne de comprendre que la prière communautaire ou la prière commune déplace la volonté de Dieu vers la volonté de l'homme. Quand vous êtes ensemble à intercéder, à prier, à être d'un même état d'esprit pour élever votre voix au Père, il est obligé de vous exaucer. Et on dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Ça veut dire que lorsque nous nous trouvons ensemble, même si Dieu était occupé au ciel n'importe comment, quand nous nous retrouvons en son nom, dans la communauté de Tamja, ou dans l'hôtel familial, ou je ne sais, dans un mouvement chrétien, Dieu dit aux populations célestes, attendez-moi un peu. Mes enfants sont en train de se rassembler. J'ai l'obligation d'être au milieu d'eux. Voilà pourquoi il n'est pas bon que l'on soit seul. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ajoute, et on écrit souvent ici, ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. On dit que c'est comme l'huile qui descend sur la barbe de Aaron. C'est comme l'onction qui descend des cieux pour vous inonder. Et on dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Bien-aimé, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Nous devons retenir ce passage et analysons l'identité de l'homme seul. Quand on dit, il n'est pas bon que tu sois seul, il s'agit de qui en fait? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle, on lorgne du côté du voisinage. Ah, je vois, il y a un qui est toujours seul. Il y a un enfant qui marche. Tu peux être celui-là ou celle-là à qui on dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Et tu ignores que tu l'es. L'homme seul, c'est qui? C'est l'homme égoïste et égocentrique qui naît avec les autres que comme des chiffons ou comme un profiteur qui veut exploiter les autres parce qu'il est seul. Il veut tout accaparer seul. Il est le plus beau. Il est le plus grand. Il est le plus intelligent. Il est le plus riche. Il est seul puisqu'il n'a pas de concurrent. Il est seul. L'homme seul, c'est celui qui ne considère pas son frère comme un partenaire de choix que Dieu lui donne pour que dans l'harmonie, l'entraide, la solidarité, l'amour, ils vivent ensemble et partagent ensemble. L'homme égoïste, l'homme orgueilleux, l'homme égocentrique est seul. Il est seul. Qu'il soit gouverneur, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit balayeur de la rue. Quand il est orgueilleux, quand il est égocentrique, il est seul. Qu'importe s'il est le premier footballeur, le premier juriste, le premier en tout, s'il ne comprend pas que l'autre est un produit merveilleux de Dieu, que le Seigneur a envoyé pour qu'ils vivent ensemble, il est seul et il est malheureux. Qu'importe s'il est haut placé ou pas placé, il est seul. Bien-aimé, voilà l'homme qui est seul. L'homme qui est seul, c'est celui-là qui croit qu'il n'a pas raison d'être né. Les malheurs l'ont accablé, les soucis l'ont rongé, la détresse est son partage. Et chaque fois qu'il contemple, qu'il regarde aux hommes, il se dit, pourquoi suis-je aussi venu? Voilà ce que nous sommes venus accompagner. Quand tu commences à penser de cette façon-là, tu es seul. Tu veux dire que tu n'es pas participant d'un monde agréable que Dieu a créé et dans lequel il t'a placé pour que tu sois un instrument de bénédiction pour l'autre. Ceux qui s'empiffent chaque jour des soucis et de toutes sortes de malheurs. Ceux qui pleurent chaque jour comme si Jésus n'était pas venu pour les délivrer. Ceux-là sont seuls. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'ils sont seuls, qu'est-ce qui se passe dans la société? Ceux-là se trouvent dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans la société. Ils se trouvent dans les présidences. Ils sont seuls. Qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous expliquer le fait que dans une maison où il y a un marié et une mariée, les gens ne se parlent pas? Les gens ne se saluent pas. Ils sont seuls. Ils dorment dans le même lit. Ils ont des enfants. Ils se lèvent le matin. Quand l'enfant dit papa bonjour, il dit bonjour. Et il passe. La vie est fade pour eux. Ils sont seuls. Ils vivent dans leur monde. Qu'importe s'ils sont de l'église. Qu'importe s'ils ont beaucoup d'enfants. Qu'importe s'ils ont une situation sociale agréable, enviable. Vous convenez avec moi que beaucoup parmi nous sont seuls. Beaucoup parmi nous vivent dans des groupes de chorale, dans des mouvements. Ils ne se saluent pas, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Il est seul celui-là. Parce qu'ensemble on est fort, ensemble on se tient, ensemble on avance, ensemble on est béni, ensemble il est doux et agréable. Comment peux-tu expliquer que dans une communauté où tu te trouves depuis des années, tu n'éprouves pas la joie, la jouissance dont nous avons entendu parler dans Ecclésiaste que nous venons de lire? Tu es seul. Tu es seul. Et Dieu sorte ce soir de ta solitude. Tu as longtemps été seul, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut te délivrer ce soir. On appelle l'enfant quand il honore le père et la mère. C'est écrit. Un enfant qui n'honore pas ses parents, il est seul. Et il n'a pas répondu aux critères de l'enfant. Un domestique qui ne sert pas ses maîtres ne s'appelle pas domestique. Il est seul. La femme est faite pour être soumise à son mari. L'homme est fait pour aimer sa femme. Quand tel n'est pas le cas, tu es seul.
Tu es seul.
L'employé est fait pour exécuter les tâches de l'employeur. Si tel n'est pas le cas, tu es seul. Bien-aimé dans le Seigneur, nous constatons donc la solitude a pollué ce monde. Et que les gens font semblant d'être ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Ils sont seulement côte à côte. Comment expliques-tu le fait que depuis des années, tu t'assois à l'église à côté de quelqu'un dont tu ne connais même pas le nom, d'année en année, tu ne le salues pas, sauf quand on dit souvent quoi? Une poignée de main frappée. Et on donne aussi la poignée de main sans même regarder la figure de celui ou de celle avec qui on est. Tu es seul. Bien-aimé, tu es seul. Je suis désolé. Tu es seul. Cette poignée de main devait être accompagnée d'une chaleur de communion fraternelle qui vous élève, qui vous honore, qui glorifie le nom du Père. Chaque fois qu'on est ici, si tel n'est pas le cas, tu es seul. Bien. Nous allons nous poser une certaine question. Comment donc vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions vivre ensemble? Et la parole de Dieu que nous étudions jour après jour nous donne une série de caractéristiques dont nous avons besoin pour vivre ensemble. Vivre ensemble, nous l'avons vu ce matin, c'est vivre dans l'humilité. Reconnaître que je t'ai créé, mais j'ai des limites, j'ai des faiblesses, j'ai des détresses, j'ai même des bassesses que je ne peux pas combler seul. Et il appartient à mon frère, à ma soeur, à mon prochain, de m'aider à combler et aller vers ton prochain. L'humilité. L'humilité consiste à savoir qu'on n'est pas capable seul. Qu'on n'a pas la science infuse. Que c'est l'autre qui me complète. Deuxième élément, c'est être authentique. Vivre ensemble, c'est se livrer l'un à l'autre dans un esprit de vérité. C'est exprimer ses faiblesses à l'autre. C'est exprimer le fond de son cœur à l'autre. Ses détresses, ses manquements, ses peurs. Ainsi de suite. Pour qu'ensemble, vous puissiez trouver une solution à cela. C'est être authentique. Cela consiste à éviter la superficialité. Vous savez ce qui nous tue? C'est que entre les couples parfois, tout est superficiel. Comment pouvez-vous dire que vous vivez ensemble, alors que le mari ne connaît même pas la poche de son épouse, alors que l'épouse ne sait même pas ce que travaille son époux, alors qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'un a quelque chose ou l'autre. C'est la superficialité. Être authentique, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est dire à l'autre ce qu'on est, qui on est. Être authentique, c'est aussi recevoir les faiblesses, les manquements de l'autre avec un esprit d'écoute, d'attention, dans le but de vous tourner vers le Seigneur, d'implorer sa grâce et sa bonté. Troisième chose, c'est savoir garder les confidences. Si vous allez être ensemble, et chaque fois que tu te confies à ton frère ou à ta soeur, cela paraît dans les réseaux sociaux. Où est l'ensemble? La confidentialité exige la confiance l'un à l'égard de l'autre. et la détention, la responsabilité de détenir le secret de l'autre. Soyez confiants les uns à l'égard de l'autre. Être ensemble demande la compassion. La compassion consiste à nous soutenir les uns les autres. C'est à partager la douleur de l'autre dans le but de soulager l'autre et de l'amener à éprouver le soulagement, dans le but de l'amener à éprouver la chaleur du prochain et l'aide du prochain. Dans le but de nous soutenir les uns les autres. Dans le but et le souci de faire disparaître ensemble nos maux. Pour que la joie et la paix soient notre partage. C'est de partager l'amour dans notre douleur. Et Colossiens 3, verset 12 dit, Philippiens 3, verset 10, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cinquième élément, c'est expérimenter la miséricorde. Pendant que nous étions encore pécheurs, Dieu a eu compassion, miséricorde de nous et il a envoyé son Fils unique, l'unique. Il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La miséricorde. Nous étions cousus des souillures. Nous étions égarés. Nous étions perdus. Dieu a eu miséricorde de nous. Et il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, malgré nos souillures, nos saletés, nous qui l'avons tué. Il a dit, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La miséricorde consiste donc à partager cette grâce que Jésus nous a donnée, à partager le pardon. Et le pardon est partagé lorsque le pardon est au-dessus de la justice. Oui, quelqu'un t'a fait telle chose qui t'a énervé, c'est vrai. Tu as droit de lui porter plainte. Mais au nom du Seigneur Jésus, au nom de la miséricorde de Jésus-Christ, je lui pardonne. Le sixième élément, c'est l'amabilité. En quoi consiste l'amabilité? C'est savoir respecter les différences. Tu ne seras jamais moi et je ne serai jamais toi. J'ai des tares, j'ai des manquements, j'ai des faiblesses, j'ai des différences de vue. Mais Dieu veut qu'on marche ensemble. Il ne te reste plus qu'à me comprendre, à avoir la patience à l'égard de mon comportement difficile et à m'accepter tel que je suis et à t'évertuer enfin à me corriger progressivement. C'est l'amabilité. Il y a la règle de la réciprocité. C'est dépendre les uns des autres. Ce que je n'ai pas, tu as. Et tu me donnes. Ce que tu n'as pas, j'ai et je te donne. C'est l'entraide. C'est le partage des responsabilités. C'est donner et recevoir. C'est la reconnaissance de la dépendance mutuelle. Nous dépendons les uns des autres. Je voudrais citer une maman qui est en train de préparer le couscous et subitement le feu s'éteint. L'enfant est là. Tu es obligé d'envoyer l'enfant dehors chercher du bois. Si tu vas chercher du bois, le couscous va devenir boule. Bon, je ne suis pas fort en art culinaire, mais je crois que c'est ça. Bien-aimés, nous sommes mutuellement responsables les uns des autres, qu'on soit petit ou qu'on soit grand. D'où la réciprocité. La franchise, c'est avoir le courage de dire la vérité. Si vous voulez vivre ensemble, dites la vérité. On ne bâtit rien avec le mensonge. Dites-vous la vérité. Soyez ouverts les uns aux autres. Ouvrez-vous. Dénoncez vos manquements, vos peines, vos détresses. Dénoncez-les. Et ensemble, vous allez vous soutenir et avoir le courage de relever la personne qui est en manque. La dernière chose, c'est la régularité. Nous avons commencé ce programme, je ne sais pas combien, mais on n'était pas si peu nombreux. Chemin faisant, les autres sont partis. Ils ont perdu. Ils ont perdu en connaissance. Ils ont perdu en communion fraternelle. Ils ont perdu en leçons à retenir. Et là, il ne peut pas grandir autant que vous qui êtes venus jour après jour. La régularité dans la fréquentation. Vous ne pouvez pas dire, vous allez vous rapprocher, vous allez vous vivre ensemble et l'un ne voit jamais l'autre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Soyez réguliers dans vos assemblées. Soyez réguliers dans vos familles. Vous ne pouvez pas être un responsable familial et on ne vous voit jamais en réunion familiale ou alors en visite de condoléances ou je ne sais quoi. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ici qui n'a jamais assisté à une seule visite de condoléances. Dieu me dit de lui dire, change de comportement. Parce que demain, tu auras aussi des problèmes. Nous allons conclure en nous faisant connaître que le prochain n'est pas un mal. Le prochain, c'est pour que vous soyez ensemble. Le prochain, c'est Dieu qui te l'a donné pour rompre ta solitude et pour que dans un espace d'harmonie, de solidarité, d'entraide et d'amour, vous viviez ensemble. Pour que le monde soit agréable à vivre. Bien-aimé. Pour que le monde soit agréable à vivre. Dieu a créé chacun d'entre nous, pas pour vivre en vase clos, mais pour s'ouvrir comme une fleur qui offre son nectar à l'humanité et qui permet au miel d'exister, qui permet à l'abeille de vivre, qui te permet de vivre de miel. Tu es cette fleur-là et tu dois t'ouvrir aux autres. Bien-aimés, vous savez que le taux de mortalité est toujours inférieur au taux de natalité. Et on dit qu'il y a 7 milliards d'âmes sur la terre. C'est ça? 7 milliards d'habitants? Vous savez pourquoi chaque fois Dieu ne fait que multiplier? Dieu s'est rendu compte que tu avais un problème. Et il a dit, il faut que je multiplie les hommes et les femmes sur la terre, les enfants, pour que le problème soit résolu. Parce que l'homme est la solution à l'homme. L'homme, tout enfant qui naît, est une solution pour un problème.
Tout être sur la terre est une réponse
à une question de quelqu'un sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut ce soir que tu revises ton regard vis-à-vis de ton prochain,
de ton voisin,
de ton ami,
de ton ennemi.
Et que désormais, tu saches que l'autre, c'est une bénédiction pour toi. Que l'autre est venu t'ajouter, il est venu te soutenir, il est venu afin qu'ensemble, vous jouissiez du bonheur et de la grâce de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu multiplie la population de la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À quelles conditions? Nous devons nous rendre compte qu'il n'est pas bon de vivre seul et nous rapprocher les uns les autres. Et là, je donne le dernier élément nécessaire. La parole de Dieu dit
dans Ésaïe 53 verset 6,
nous étions errants
et chacun suivait sa propre
Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a rassemblés, il a fait de nous les enfants d'un même Père. La condition pour que nous vivions ensemble, c'est d'embrasser Christ. Pourquoi il y a tant de guerres, tant de mésententes, tant de haine? C'est parce que Christ n'est pas au centre de nos vies. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il est bon que tu arrêtes la main du Seigneur Jésus, que tu lui abandonnes ton cœur et que désormais tu saches saisir la main du prochain pour que la vie soit belle. Le Seigneur Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, voilà pourquoi il n'est pas bon que l'on soit seul. Il n'est pas bon qu'on vive sans saisir la main du Seigneur Jésus. Et c'est la seule condition à remplir pour trouver un autre à côté de moi, à mon frère, ma soeur, mon ami, mon ennemi, une merveilleuse créature. Souvenez-vous que dans Somme 8, Somme 139, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une merveilleuse créature. Autant tu es une merveilleuse créature,
autant
ton prochain, ton frère, ta soeur, le connu, l'inconnu, est une merveilleuse créature de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que vous vous embrassiez pour former un monde glorieux. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Je veux que tu dises à toi-même, il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Rends grâce au Seigneur de ce qui te révèle ce soir, qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Rends grâce au Seigneur de ce qu'il te dit ce soir. L'autre n'est pas une malédiction pour toi. L'autre est une bénédiction que j'ai placée à côté de toi. Rends grâce au Seigneur de ce qu'il te dit ce soir. Va vers l'autre et construisez ensemble, bâtissez ensemble, bénissez ensemble et je vous bénirai. Je veux que tu demandes pardon pour toutes les fois que tu as minimisé ton prochain. Tu l'as toisé, tu l'as négligé, comme si ce n'était pas une créature de Dieu envoyée pour que vous soyez ensemble, alors qu'il était une richesse pour toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as créé la division par ton silence coupable, par ton indifférence, par ta désinvolture, ne favorisant ainsi pas le vivre ensemble. Demande pardon à Dieu de ce qui t'est arrivé parfois, d'insulter quelqu'un d'autre, une tribu autre, et j'en passe, alors que Dieu vous a unis pour que vous viviez ensemble, pour que tu ne sois pas seul. Demande maintenant au Seigneur de te donner le regard qui voit en l'autre une bénédiction. Le regard qui voit en l'autre un prochain aimable. En ton époux, en ton épouse, en tes enfants, en ta famille, en ta communauté, au sein de ta communauté, dans la société. Bénis le Seigneur de ce qu'il t'a entouré, de tous ceux-là avec qui vont venir rompre ta solitude. Puis que le Seigneur te donne l'esprit d'humilité pour t'abaisser et aller vers l'autre et recevoir de lui ce qu'il a de meilleur pour compléter ce que tu as de meilleur. prie pour que le Seigneur te donne l'esprit d'authenticité afin qu'entre les frères et les sœurs il y ait une ouverture d'esprit, une communion de pensées, d'idées, de sentiments pour une élévation commune. Prie pour que le Seigneur te donne l'esprit de confidentialité et qu'il t'envoie vers celui-là qui partage le même esprit de confidentialité afin qu'ensemble vous puissiez vous unir dans la discrétion devant le Père et lui porter vos problèmes ensemble. Demande au Seigneur de te donner l'esprit de compassion. Bien-aimés, si nous nous portions le fardeau les uns les autres, personne ne serait écrasé. Que l'esprit de compassion nous anime dans notre communauté comme dans notre famille et dans cette société, afin que le clanisme, le tribalisme et toutes sortes de maux disparaissent du milieu de nous. Prions pour que le Seigneur nous donne d'expérimenter la miséricorde dès maintenant. Que ceux contre qui j'ai nourri l'esprit de vengeance, de rancœur et de rancune vers eux, pour leur saisir la main d'amour, de solidarité, de fraternité, pour que règne la paix. Prie pour l'esprit de réciprocité, afin que nous entraidions les uns les autres et que nous nous reconnaissions dépendants les uns des autres. Prie pour l'esprit de franchise au milieu de nous, que nous ne soyons pas des hypocrites, mais que dans un esprit de vérité, d'amour partagé, nous renoncions aux mensonges et que chacun de nous parle selon la vérité à son frère, à son prochain, conscient que nous sommes membres d'un même corps. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu as été avec nous ce soir. Seigneur, merci de ce que, quand tu nous parles, ta parole ne sort jamais sans produire ses effets. Merci de ce que tu as nettoyé nos plaies, tu as pansé nos plaies, tu as guéri nos plaies de la solitude, voulue, inconsciente ou consciente, afin que, Seigneur, dans un esprit d'amour, et dans une communion fraternelle, nous nous soudions la main dans la main pour aller ensemble porter haut le flambeau de ta gloire sur cette terre pour le salut de beaucoup. Merci Seigneur, parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.